Commencer par les déchets et je vous ai remis un petit papier mémo que vous pouvez avoir sous les yeux et peut-être compléter. Je vais suivre ce papier au début et puis je parlerai de la pollution des sols. C'est des sujets qui se recoupent en partie. Et tout ça, bien entendu, c'est sous l'idée générale du développement durable et notamment de son volet environnemental. Je ne vais pas vous faire une définition du développement durable. Si vous voulez, on viendra là-dessus dans la discussion. Mais vous verrez qu'il y a toujours, et vous le savez, il y a toujours des aspects sociaux à côté des questions environnementales quand on parle de développement durable. Et aussi des aspects économiques. Il est question d'industrie, il est question d'emploi. Et aussi des questions sanitaires qui intéresseront certains d'entre vous. Il est question de maladies, il est question de risques pour la santé. Le développement durable essaye de donner une cohérence à toutes ces grandes interrogations et à en faire une approche cohérente. Un peu différente pour les pays du Nord, pour les pays du Sud. Je vais plutôt vous parler du problème vu des pays du Nord, mais on peut bien entendu largement ouvrir le débat. Alors, les déchets. Il y a pas mal d'années, j'ai vu une émission à la télévision d'un monsieur qui s'appelait Cabrol, j'ai oublié son prénom, je pense que ça vous dira rien, et qui racontait la vie dans une petite ferme de l'Ardèche, disons tout au début du siècle dernier. Et il s'agissait des déchets, et il disait, les déchets, mais c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. On se nourrissait largement sur la ferme, on n'achetait presque rien. Quand on achetait un journal, on gardait le journal, on en faisait des petits découpages et ça faisait des napperons. Quand on cassait un verre, on ne jetait pas le verre cassé, on le pilait et on le mélangeait à la mort au rat. Et les importations de biens de l'extérieur étaient quasiment inexistantes. On était dans la formule zéro déchet, à laquelle je reviendrai peut-être tout à l'heure, qui serait un idéal pour notre civilisation d'aujourd'hui. Deuxième petite histoire. Moi, je ne suis pas tout jeune. Je suis né bien avant la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 30. Et je me rappelle, quand j'étais enfant, on allait chercher le lait. On n'allait pas acheter le lait dans un paquet, ni même dans une bouteille. L'idée que le lait puisse être dans un carton carré, c'était inimaginable. On allait avec le pot à lait, en fer blanc, qui avait un petit couvercle attaché au reste par une petite chaîne, et on allait chez le laitier, l'épicier laitier. Il avait un grand bidon de lait qui était arrivé par camion de la ferme. Il avait quand même été pasteurisé au passage. Et il y avait une louche. On remplissait son pot à lait, on payait. Puis on revenait le lendemain après avoir vidé et nettoyé. On avait quand même l'eau courante. Avoir nettoyé le pot à lait. Pas de déchets, zéro déchet. Donc, les choses ont énormément changé. Et vous le sentez bien, elles ont changé avec quoi ? Avec l'arrivée de la société de consommation. En gros, s'agissant de nos pays européens, dans les années 50, 60, 70. En même temps qu'on s'équipait de toutes sortes d'équipements auxquels on ne pensait pas avant. Quand j'étais jeune, l'idée d'une machine à laver, l'idée même d'un frigidaire, l'idée d'une télévision, bien entendu, ça n'existait pas. Et je ne parle pas de tous les petits objets que nous avons dans nos poches et qui n'étaient même pas imaginables. Et tout ça, c'est quand même plus ou moins jetable. Je dirais pas qu'on jetait pas les brosses à dents, mais les brosses à dents, c'était marrant, elles étaient faites en bois avec des petits poils de sanglier. Je pense que ce n'était pas toujours du sanglier. On les passait à l'eau bouillante avant de s'en servir. On les jetait quand elles étaient trop esquintées, parce qu'on se brossait quand même bien les dents. Mais c'était du biodégradable absolu. L'idée qu'il puisse y avoir du pétrole, parce que je vous signale qu'il y a du pétrole dans votre brosse à dents, il n'y a même que ça. C'est un dérivé de produits de synthèse qui viennent du pétrole, comme ça, peut-être ça, comme sûrement ça. Bon, on a du pétrole partout, comme les panneaux qui sont là-haut. Bon, cette idée-là, on n'est pas tout à fait dans les déchets, on est plutôt dans les questions d'énergie. Cette idée-là n'existait pas. Nous sommes dans une civilisation du pétrole et du jetable. Donc ça ouvre la porte à cette idée de déchets. Alors je reviens à mon petit papier, c'est un phénomène contemporain. Et il y a un élément autour de nous qui est extrêmement performant en matière de zéro déchet, c'est la nature. Si vous allez dans une forêt, il n'y a pas de déchets. Tout se recycle. Vous voyez bien ce que je veux dire, hein ? Même les feuilles qui tombent sont très utiles pour l'humus et pour la santé des arbres. Même chose dans une prairie sauvage. Alors tout ça, donc, la société de consommation, l'urbanisation et le fait que l'urbanisation, c'est important parce qu'on transporte les choses. C'est complètement différent de la ferme d'autrefois où on vivait en autosubsistance pour l'essentiel. On tuait le cochon 2 fois par an, etc. Là, je ne pense pas que chez vous, on tue le cochon. Excusez-moi pour ceux qui sont musulmans ou musulmanes, encore moins c'est chez ceux-là. Mais les choses viennent de l'extérieur et il y a une nouvelle industrie qui est née. C'est l'industrie de l'emballage. Si vous étiez complètement écologique, vous m'auriez proposé une carafe d'eau du robinet et je n'aurais pas consommé de pétrole parce que ça va poser le problème ensuite. Il faut être sûr que cette bouteille, une fois que je l'aurai bu, elle ira dans la bonne poubelle, elle sera bien recyclée, elle servira à nouveau. Ça ne marche pas toujours. Elle a peut-être une chance, excusez-moi, mesdames et messieurs qui gérez la maison, elle a peut-être une chance de se retrouver dans une décharge publique, puisque je vais vous le dire dans un instant, beaucoup de nos déchets vont dans des décharges et ce n'est pas ce qu'il y a de plus heureux. J'ai mis dans le petit papier l'Afrique bleue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a pas que nous qui souffrons des déchets. Nous avons exporté nos travers. L'Afrique bleue, c'est que le sac plastique a envahi les pays en développement comme chez nous. Et autour d'une ville, je reviens de l'Angola, d'une ville comme Luanda, capitale de l'Angola, d'une ville comme Bamako, que je connais bien au Mali, vous avez des étendues de champs recouverts de sacs plastiques. Ils sont bleus, ils sont gris, ils sont noirs. C'est dramatique. Vous savez que le plastique non biodégradable met entre 100 et 200 ans pour disparaître. Et malheureusement, de mauvais réflexes se sont pris. Où il n'y a pas suffisamment d'argent pour organiser les solutions, les plastiques sont partout. Et c'est même des problèmes sanitaires parce que les vaches qui se promènent, j'étais aussi en Inde cet été, les vaches sacrées, elles se promènent partout, elles bouffent du plastique. Et dans les pays où on mange de ces bestiaux-là, en Inde en principe on ne mange pas de vaches, eh bien on ingurgite du plastique au deuxième degré. Donc les déchets, ce n'est plus l'apanage, le privilège de nos sociétés dites développées. Moi je mets toujours ça entre guillemets. Est-ce que nous sommes vraiment développés ? Est-ce que nous donnons un bon modèle de développement au monde entier ? C'est peut-être une question qu'on pourrait se poser. Mais il n'y a pas que nos pays, il y a aussi les pays beaucoup plus pauvres. Et tout ça, ça participe fortement à notre empreinte écologique. Je pense que vous connaissez ce concept, sans ça on reviendra dessus. Je vous donne ensuite quelques chiffres, vous les avez sous les yeux. Rien que pour la France, plus de 600 millions de tonnes par an. Un chiffre qui a été multiplié par 4 en 25 ans, vous vous rendez compte ? 25 ans, c'est pas très loin, c'est... c'est le début des années 80, le volume des déchets, le poids des déchets dans notre pays a été multiplié par 4 et ça continue d'augmenter. Là-dedans, il y a beaucoup de déchets de travaux publics, de bâtiments qu'on détruit. Il y a beaucoup de déchets industriels, mais les déchets ménagers, c'est moins important. Mais ça revient quand même à ce chiffre assez impressionnant, c'est un peu plus d'un kilo par personne, pour chacun d'entre vous. Imaginez le nombre que ça fait, 200 kilos dans cette salle, et par jour. Un peu plus d'un kilo par personne et par jour. Alors comment est-ce que c'est, où est-ce qu'ils vont ces déchets? Là c'est peut-être le chiffre le plus important du papier que vous avez sous les yeux. Ils vont beaucoup trop peu à la valorisation. Et vous voyez la comparaison avec des pays voisins, nous ne sommes pas bons. C'est 20%, je crois, 20%. Et puis ils vont en décharge, ce que les pouvoirs publics appellent avec beaucoup de pudeur le stockage. La décharge, c'est ce que vous connaissez, hein, plus ou moins dans un trou, avec tous les inconvénients à la fois des gaz qui s'échappent vers le haut et des pollutions qui s'échappent vers le bas et qui descendent éventuellement dans, nous sommes dans la pollution des sols, là, hein, qui descendent éventuellement dans les nappes phréatiques. Et puis ils vont dans l'incinération. Et l'incinération n'est pas la bonne solution quand elle est trop générale. Elle peut être pour certaines catégories de déchets qui ne sont ni des déchets végétaux qui doivent aller à d'autres usages, on en dira un mot dans un instant, et notamment au compostage, et donc retourner à la terre à travers le compostage, ni des déchets réutilisables dans l'industrie, qui sont tous les éléments de mon téléphone portable, etc., qui contient des métaux relativement précieux qui peuvent être réutilisés. Alors quand ce n'est pas ça, peut-être l'incinération, ça peut servir, mais l'incinération est très fortement combattue par les associations écologistes parce qu'elle disperse, après la combustion, des pollutions. Ce n'est pas un cycle pur. Et le principal avantage de l'incinération, qui est largement utilisé par les sociétés qui ont des incinérateurs, c'est quoi? C'est de dire que ça peut servir à fabriquer de la chaleur. Et c'est vrai qu'une partie de la ville de Paris, par exemple, est chauffée par un réseau de chaleur qui vient de la combustion de déchets dans une grande usine à Issy-les-Moulineaux. Ça fait de la chaleur, c'est effectivement une justification partielle, mais de loin la meilleure solution, c'est la valorisation, que j'explique en deux lignes ensuite. La valorisation, c'est la réutilisation d'une grande partie des déchets. Ça comporte les déchets végétaux qui sont réutilisés quand on fait du compost pour servir à l'agriculture. C'est le recyclage, vous voyez à peu près ce que ça veut dire, c'est la récupération, c'est ce qu'on appelle les 3 R, et puis aussi la valorisation énergétique, j'en ai parlé à propos des incinérateurs. Il y a d'ailleurs une autre manière de faire de la valorisation énergétique, on équipe de plus en plus souvent les décharges d'un dispositif très simple, c'est une couverture plastique et puis une cheminée qui récupère. Qui sait quel est le gaz qui sort du... Qui sait quel est le gaz qui sort d'une décharge? Bon, moi je sais, je vais le dire. C'est le méthane, et le méthane peut être donné dans des canalisations. D'abord, c'est très bien de récupérer le méthane, parce que c'est un gaz à effet de serre aussi dangereux, même plus pour l'effet de serre, que le gaz carbonique. Et deuxièmement, ça peut faire un combustible. C'est un gaz naturel qui peut être utilisé en le brûlant. Donc, incinération, mauvaise note. Décharge, très mauvaise note. Valorisation, bonne note si c'est bien fait. Et vous voyez qu'on n'est pas très bien placé en France. Alors, quelques vues sur les problèmes. Ben, j'en ai déjà parlé. Santé et environnement, j'en ai parlé à propos des décharges, les infiltrations vers le sol, le méthane vers le haut, l'incinération, j'en ai parlé aussi, les fumées et les particules. Et puis, il y a ce qu'on appelle les déchets invisibles. Là-dedans, vous avez énormément d'énergie. Pour faire cette bouteille, on est parti du pétrole. Il y a eu des transformations chimiques nombreuses. On est arrivé à un film plastique. Tout ça, ça a consommé de l'énergie dans des usines. Ensuite, dans une autre usine, on a pris les feuilles de plastique, on les a moulées, on les a forgées, on les a formées. Consommation d'énergie. Même chose pour le bouchon. Puis ensuite, on a transporté les bouteilles. Quand on transporte, c'est généralement sur un camion, ça fait aussi des gaz à effet de serre. Près de la source, c'est une autre source. Et puis dans une usine encore, des machines ont amené les petites bouteilles bien formées, forgées sous le robinet. Et puis une autre machine a vissé. Et puis on a remis ça dans des... ce que vous achetez dans les supermarchés, dans des emballages en plastique, pour pouvoir les prendre plusieurs à la fois. Ça fait encore du pétrole et ça va faire des déchets. Et ensuite, on les a remis sur des camions ou sur des véhicules plus petits pour les amener dans les magasins. Et vous-même ou vos parents, vous avez pris la voiture pour aller les acheter. Bon. Donc, il y a beaucoup plus de déchets dans un produit comme ça ou dans un produit comme ça, que si on prend l'eau du robinet, qui certes a nécessité la construction d'une adduction, mais qui sert une fois pour toutes et qui ne fait pas de déchets. Donc c'est un petit détour sur ce que j'appelle les déchets invisibles. On va dire un mot du bio, et je sais qu'il y a dans cette salle des personnes qui sont très bio. J'étais amené dans une voiture où il y avait un panier d'AMAP. J'espère que vous savez ce que c'est qu'une AMAP. Sans ça, on en reviendra dessus tout à l'heure. Il y a du bio dans l'air. Et je crois que les sœurs qui sont pas loin d'ici sont également assez attentives à l'agriculture biologique. Je parlais du bio pour dire quoi déjà ? Pour dire que le bio, c'est presque toujours un produit agricole de proximité, avec peu de transport et peu d'emballage. Vous faites la comparaison avec ce que vous achetez dans un supermarché qui est toujours deux ou trois fois emballé et qui est toujours d'origine, qui est presque toujours d'origine lointaine et éventuellement à contre-saison. Vous avez aussi cette idée-là. On en parlait ce matin ailleurs à propos des énergies renouvelables. C'est une bonne idée d'acheter des produits de saison qui sont produits pas loin, dans la région ou dans le coin, plutôt que d'aller acheter des choses qui sont chargées de déchets invisibles, kérosène, puisqu'elles sont venues en avion, ou de combustible pour les bateaux qui les ont apportés, pour la réfrigération qui les a accompagnés. Il y a toutes sortes de déchets dans l'air, hein, indépendamment de ceux qu'on peut concrètement toucher. La prochaine fois, si je reviens, j'aurai certainement droit à une carafe avec une bouteille d'eau du robinet, et je vous en remercie d'avance. Je dis un mot sur les déchets compliqués, les déchets de longue durée. Il y a des déchets très difficiles à traiter, c'est ce qui sort des hôpitaux et des cliniques. Tout ce qui se rapporte aux soins médicaux, pas besoin de vous faire de croquis, c'est des déchets qui n'ont pas intérêt à être mis dans une décharge et à descendre dans les nappes phréatiques d'où vient l'eau qu'on boit. Il y a ce qui n'est pas dégradable. Vous connaissez tous la différence entre dégradable et non dégradable. Les sacs plastiques, je l'ai évoqué à propos de l'Afrique, en principe, enfin pour la plupart, sauf des choses plus récentes, ne sont pas dégradables. Et puis il y a la grande question du nucléaire. Qu'est-ce qu'on fait des déchets du nucléaire dont on sait qu'ils vont rester dangereux, vous voyez ce que je veux dire, ce qui sort des centrales nucléaires, qui sont porteurs de, qui sont des éléments, des matériaux porteurs d'une redoutable radioactivité qui, dans certains cas, peut durer des milliers et des milliers d'années, voire des dizaines de milliers d'années. On n'a pas trouvé la solution pour les déchets nucléaires. Quand on fait une enquête sur les collectivités locales en France, on leur demande quel est votre problème numéro un. C'est pas amener de l'eau là où il n'y en a pas, c'est pas tirer une route de plus, c'est pas agrandir l'école. Leur problème numéro un, c'est les déchets. Qu'est-ce que je fais de mes déchets? Et la réponse, c'est que généralement, ils se groupent, les petites communes se groupent, ou les communes plus importantes, comme par ici, ont déjà la dimension nécessaire et trouvent des solutions qui vont dans le sens de ce qu'on va dire ensuite, c'est-à-dire le tri, la collecte, le tri et la valorisation. Alors, la solution, c'est ce que j'appelle la dématérialisation, c'est-à-dire se débarrasser intelligemment de tout ce qui est matériel. Pas se débarrasser, mon mot est pas bon. Valoriser tout ce qui est matériel et réduire, je parle de prévention, réduire tout ce qui est inutile. Lutter notamment contre l'excès d'emballage. C'est-à-dire prendre le problème très en amont et aller voir des industriels ou attendre que les industriels prennent conscience de quelque chose et se disent « Mais est-ce que j'ai besoin de tellement d'emballage ? Est-ce que je ne peux pas conditionner différemment les produits que nous allons vendre ?» Je ne suis pas absolument mon papier, mais je vous dis des idées qui me passent par la tête. Si vous allez aux Pays-Bas, vous voyez que les yaourts sont achetés non pas par petits pots comme on les connaît tous, qui sont eux-mêmes déjà du conditionnement assez raffiné pour une si petite quantité de produits à manger, et qui sont ensuite emballés dans ce que vous savez, le paquet de 4 ou le paquet de 6 ou de 10, mais ils les achètent en grands pots, ils les mettent dans le frigidaire, le temps que ça se périme, il n'y a pas de problème. Et il y a donc moins d'emballage par rapport à la quantité consommée. C'est ce que j'appelle la dématérialisation, moins de matière autour du produit. Donc il y a cette petite phrase que je trouve sympa, le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas. Hein, parce que si on ne le produit pas, on n'a pas à le traiter ensuite. Alors, on demande aux industriels, à tous les acteurs économiques, que de se rendre compte qu'ils ont une responsabilité. Le mot la REP, ça veut dire la responsabilité élargie des producteurs. Ça se passe à leur niveau. Minimiser les emballages, ne pas se lancer dans le jetable. C'est une grande mode, finalement. Finalement, quand votre crayon Bic n'a plus d'encre, vous le jetez. Est-ce que c'est la meilleure solution? Autrefois, moi, je vais encore raconter des histoires d'anciens combattants. J'avais un encrier, moi, et je remplissais... Il n'y avait pas de crayon à billes, et je remplissais mon encrier, mon stylo. Il y avait un petit machin comme ça, je trempais la plume dans l'encrier. Je pense que plusieurs d'entre vous s'en souviennent. On faisait ça. Et on rechargeait. C'était le rechargeable au lieu du jetable. C'était plutôt mieux. On se tachait un petit peu plus les doigts, mais c'était plutôt mieux. Éco-conditionnement, ça veut dire avoir des emballages écologiques, recyclables, réutilisables. Le cycle de vie, c'est quoi le cycle de vie ? Je vous donne un exemple avec l'automobile. Il y a quelquefois quand même des très bonnes réglementations qui viennent, et celle-là, elle vient de Bruxelles, c'est-à-dire de l'Union européenne. Vous avez une obligation, si vous êtes constructeur d'automobile, vous avez une obligation que le véhicule que vous produisez soit recyclable à 90%. C'est-à-dire que quasiment tous les éléments de la voiture puissent servir. Les tôles sont reprises, les tôles qui sont d'ailleurs plus toujours de la tôle, mais du plastique, c'est encore le pétrole, sont reprises, laminées, et ça refait des produits métalliques. Toute l'électronique est recyclable, etc. Il y a probablement que les sièges, les coussins qui sont trop usés pour être réutilisés, mais il y a certainement des usages encore. Donc c'est ce qu'on peut appeler le cycle de vie des produits. Au début, les Anglais appellent ça from cradle to grave, depuis le berceau jusqu'à la tombe. Le produit, on se préoccupe au berceau, à la naissance, de ce qu'il donnera après usage. On se préoccupe aussi, évidemment, aujourd'hui, pour des raisons écologiques, qu'il soit moins polluant, moins consommateur de carburant, si c'est une voiture, etc. Le cycle de vie, c'est un concept intéressant. Et puis, je parle d'incitation économique et réglementaire. Vous avez entendu parler du Grenelle de l'environnement, qui est ce grand débat national, moi j'y ai beaucoup participé, sur les questions d'environnement et de développement durable. Une des décisions qui est en train d'être traduite dans la loi, c'est que les ampoules à incandescence, vous savez ce que c'est une ampoule à incandescence, c'est une ampoule normale, hein, comme on l'a toujours vu, seront interdites en France à partir de 2010, ce qui n'est pas loin, c'est dans deux ans, dans moins de deux ans. Pourquoi ? Il y a notamment cette idée qu'une ampoule à incandescence, un, ça consomme beaucoup plus et beaucoup trop d'électricité, donc c'est pas bon pour les économies d'énergie, et deux, ça se jette. Et généralement, ça se jette n'importe comment. Il n'y a pas de très bon dispositif pour récupérer les ampoules, la partie cuivrée, le verre, etc. Donc c'est pas intelligent du point de vue du recyclage des déchets. Les ampoules fluo, un, elles consomment moins, deux, ben, on les jette moins souvent parce qu'elles durent 10 fois plus longtemps. Donc on est bien dans le sens de la minimisation, dématérialisation qui se rapporte aux déchets. Et puis alors il y a tous les comportements du consommateur, c'est-à-dire vous et moi. Que le consommateur soit responsable. Je pense que vous avez tous, plus ou moins, mesdemoiselles et messieurs, vous avez, ou mesdames et messieurs, vous avez tous l'idée du tri. Et je pense même que trier les déchets, ça a été un des premiers pas de la prise de conscience qu'il y avait des problèmes d'environnement. Vous avez probablement des poubelles différentes chez vous. Et vous avez vaguement l'idée qu'on ne fait pas la même chose avec les fans des carottes et avec la pile électrique, hein, et que ça doit aller vers des destinations différentes. Donc le consommateur doit être attentif au tri. Il doit éviter les emballages. Je vous fais pas la morale, hein, mais pour aller dans le sens de ce qui est souhaitable, il faut préférer les produits qui sont conditionnés en gros, éventuellement en vrac. Bon, on peut acheter des citrons qui sont conditionnés par 4 avec un double emballage. On peut acheter des citrons individuellement aussi. Vous me direz que ça finira bien à un moment dans un sac en plastique pour être pesé. Rien n'est parfait. Hein. Et puis, je mets préférence pour les produits éco-citoyens. Ben, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est mon histoire de l'eau du robinet. C'est l'histoire du papier recyclé. Si vous voyez mon truc, là, mon papier que j'ai, ben, c'est un papier qui a déjà été servi, C'est pas un papier blanc et il aura servi sur les deux côtés. D'un côté, il y a mes notes, de l'autre côté, il y a... Bon, je suis pas un héros, hein, mais c'est plutôt mieux. C'est pareil à la page du milieu. Je vais tourner de la page dans un instant. Et j'ai essayé de réduire le format, quitte à vous donner des difficultés pour lire de ce que vous avez sous les yeux. Donc, c'est des produits éco-citoyens. C'est un geste éco-citoyen. De même, si vous achetez une lampe de poche rechargeable ou un appareil de radio rechargeable au lieu d'avoir des piles jetables, vous faites quelque chose qui va dans le bon sens. Et puis j'ai parlé des produits saisonniers tout à l'heure. Même chose, il y a des petits bouts de papier qui sont très utiles, c'est ceux que vous mettez sur votre boîte aux lettres où vous mettez « Merci, pas de pub ici ». Il y a, je n'ai pas le chiffre en tête, des dizaines de milliers de tonnes de papier produits en France pour faire ces publicités que la plupart du temps on met directement à la poubelle. Bon, si on les refuse, comme le font beaucoup de gens aujourd'hui, on va décourager ceux qui font de la pub à tort et à travers pour vous amener bien souvent à consommer des produits qui ne sont pas terriblement intelligents ni terriblement nécessaires. Et puis, enfin, il y a l'idée de... d'avoir recours à des services plutôt qu'à des achats. Louer, emprunter, vous savez que pour l'automobile, ça se fait de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui n'achètent plus une voiture. Ça se fait plus dans les pays anglo-saxons que chez nous. Ils n'achètent plus une voiture, ils ont un abonnement, ils louent. Ce qui veut dire que la même voiture, ayant consommé le même volume de produits, de pétrole, de transport, servira beaucoup plus et donc son utilisation sera plus en rapport avec ce qu'elle aura coûté en prélèvement sur les ressources naturelles. Trois sortes de traitements. C'est pas tout à fait écrit comme ça dans mon papier. C'est ce qui est organique et végétal, ça doit retourner à la terre. Je l'ai déjà dit, je le répète, compostage. Je ne sais pas comment c'est dans les Pyrénées-Atlantiques, dans le département voisin des Landes, ils sont très très forts pour récupérer les déchets végétaux ou pour installer des compostières et faire de la formation pour comment faire du compost quand on a une maison individuelle, éventuellement un potager autour de sa maison. Il y a donc la valorisation agronomique. Il y a la valorisation matière, c'est tout ce qui est récupération et recyclage. Il y a une énorme industrie qui se crée là-dessus pour récupérer tout. J'ai parlé des petits éléments qui sont dans mon téléphone portable. Il est probable que le jour où je m'en servirai plus, si je pense, au lieu de le garder dans un tiroir, comme on en a tous plein, à le rapporter à celui qui me vendra le suivant, il partira en Chine, probablement. Et dans des conditions qui ne sont pas toujours très bonnes sur le plan de la santé, il y a des gens qui vont le dépiauter et faire des montagnes de cuivre, de silicium, de produits sophistiqués dont je ne connais même pas le nom, qui vont être recyclés. Comme les ressources de cuivre, de silicium, etc., sont des ressources non renouvelables, il y a des mines, il y a des gisements, mais c'est comme pour le pétrole, c'est pas indéfiniment, et puis c'est pas une ressource indéfinie, c'est une ressource épuisable. C'est un bon service rendu à la planète que de réutiliser tout ça plutôt que d'aller épuiser des gisements qui auront un jour une fin. On peut dire la même chose avec la partie de ce téléphone qui est un dérivé du pétrole. Il peut être refondu. Et sa limite, si on fait ça sur des centaines de millions de téléphones chaque année, ça nécessite moins d'aller puiser dans les gisements de pétrole. Et puis, en dernier lieu, il y a la valorisation avec l'énergie. Alors, il y a quelque chose qui est très très bien, c'est ce qu'on appelle la cogénération. Je ne sais pas si ça se fait dans l'agglomération de Bayonne, Anglet, Biarritz, il y a des quartiers, ça se fait beaucoup plus dans les pays du Nord, où les déchets après tri où une partie des déchets sont brûlés dans une petite centrale de quartier qui fait de la chaleur pour chauffer le quartier et qui éventuellement fait de l'énergie. Des éco-quartiers qui deviennent partiellement autonomes, parce qu'il y a d'autres manières d'avoir de l'énergie, il y a les énergies renouvelables, les capteurs solaires, etc. Ils deviennent partiellement autonomes par une bonne utilisation des déchets. Voilà, je vais peut-être arrêter là. Je voudrais peut-être vous faire un petit croquis sur... je vous ai donné des exemples là, hein, vous verrez. Je connais bien le cas de la Corse, où une association, une ONG, qui s'appelle le Festival du Vent, a convaincu les chaînes de supermarchés de ne plus utiliser les sacs plastiques. Et la Corse est un paysage plus propre que d'autres régions de France parce que les sacs plastiques ont quasiment disparu. Vous voyez cet exemple aussi de la Catalogne, la région de Barcelone. Il y a des villes qui vous proposent, vous avez une fête, n'allez pas acheter de la vaisselle, n'utilisez pas de la vaisselle en papier jetable parce que ce n'est pas intelligent, ça part à la décharge, on vous loue de la vaisselle, on vous loue et puis ça servira le week-end d'après pour une autre fête. C'est donc toujours réduire les déchets. Vous voyez, pour parler des déchets, je vous parle plutôt de moins de déchets et ce qu'on fait pour éviter les déchets. Alors où est-ce qu'on en est en France ? Eh bien, il y a une direction générale avec le Grenelle de l'environnement qui est de réduire le recours aux incinérateurs et au stockage. Le stockage, ça veut dire les décharges. De réduire la quantité de déchets par tête, c'est-à-dire d'encourager les collectivités locales à faire des choses comme ce qui se fait à côté d'ici, dans le département des Landes et peut-être ici. Il y a l'introduction de ce qu'on appelle la pesée embarquée. Ça veut dire que quand vous avez une maison individuelle, c'est plus facile que quand vous êtes dans un immeuble collectif. Le camion qui vient ramasser les ordures ménagères pèse. Et puis il y a un petit système électronique. Et vous avez quelques centimes d'euros à chaque fois. Donc vous avez intérêt à avoir moins de déchets. Peser, embarquer. Donc tout ça, ce sont des incitations à la réduction des déchets. Et puis, voilà ce que je voulais vous dire. À la fin de cette note, vous avez quelques indications sur la course à la récupération des déchets. Les Chinois et un peu les Indiens, mais ils ont une industrie moins forte que celle des Chinois, sont en train de courir le monde pour récupérer des déchets. Vous avez des Chinois qui patrouillent aux États-Unis pour aller prendre possession pour la valeur d'un dollar d'une usine désaffectée. Sur cette usine désaffectée, il y a des charpentes en ferraille. Pour eux, ça vaut de l'or. Ils les démontent eux-mêmes, ils font venir des ouvriers de Chine, ils les chargent sur des bateaux, ils les ramènent chez eux et ça fait de l'acier à bon compte sans avoir besoin d'aller chercher des ressources de minerais de fer qui sont en train de devenir de plus en plus rares. Vous avez ça pour tous les produits, y compris pour le bois et le carton. Voilà, je vais arrêter là sur les déchets. On laisse de la place pour les questions et je vous dis quelques mots. Là, vous n'avez pas de notes sur la pollution des sols. OK ? On fait les questions sur les déchets, là. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais il y a une espèce de pression sociale, vous le sentez bien d'ailleurs, qui vous amène à faire quand même le geste. Il y a une formule comme ça, le geste citoyen ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire à ne pas faire n'importe quoi avec vos déchets. C'est comme ça qu'on essaie de résoudre le problème. Dans les pays pauvres, non seulement il n'est pas obligatoire, mais ça ne se pratique pas. Il y a énormément de villes où il n'y a pas de ramassage de déchets. Il n'y a pas de ramassage et encore moins de tri de déchets. Je vais vous raconter une petite histoire. Ça se passe dans une ville d'un pays d'Afrique que je n'ai pas envie de nommer parce que l'histoire n'est pas sympathique pour la ville. Mon ONG Agrisud aide des gens pauvres à devenir, écoutez, ça peut être intéressant éventuellement, à devenir petits exploitants agricoles, c'est-à-dire à faire du maraîchage autour des villes avec éventuellement une parcelle grande comme la moitié de cette salle. Et avec une parcelle grande comme la moitié de cette salle, quand ils ont été bien formés, bien accompagnés, ils cultivent des légumes ou des fruits et ils gagnent leur vie en les vendant sur le marché d'à côté. Bon. Ils ont besoin d'engrais. Et plutôt que des engrais organiques, on essaie de les orienter vers du compost. Et dans ces pays-là, où la végétation est luxuriante, donc je suis plutôt en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest, c'est la région équatoriale, beaucoup de produits produisent beaucoup de feuilles et de tiges. Pensez au manioc avec toutes ces feuilles, enfin des produits que vous connaissez pas nécessairement. Donc l'idée vient pour les aider à avoir des engrais, de faire du compostage et du recyclage de la partie végétale des déchets. Quand les gens achètent des produits alimentaires, ils jettent une grande partie. Alors nous avions, nous, créé dans cette ville une association qui avait d'ailleurs créé beaucoup d'emplois, où il y avait des gens avec des petites charrettes à bras qui passaient dans les rues et qui, moyennant une somme infime, prenaient les déchets chez les gens. Enfin, les gens leur payaient une somme infime pour être débarrassés de leurs déchets. Et puis ils allaient, on avait fait dans cette ville deux centres de tri, il y avait aussi des emplois, et c'était bien sophistiqué, il y avait des hommes et des femmes avec des masques et des gants, ils mettaient de côté les engrais organiques et les autres engrais, valorisables ou non valorisables, qui partaient en décharge. Et les engrais organiques, on les mettait dans des camions et on allait les vendre aux maraîchers. Et on avait acheté deux camions pour ça. Et puis, la ville en question, dont je ne dirai pas le nom, a dit, attendez, c'est un service public, ça c'est à nous de prendre en charge cette affaire. On va se mettre à la place de votre association avec les services de la ville. Et ils ont réquisitionné les deux camions. Et malheureusement, je suis en train de vous parler de la corruption. Malheureusement, tout le système s'est effondré. Ils ont vendu les camions pour se faire de l'argent. Donc on ne pouvait plus évacuer les centres de tri. Ils n'ont plus payé les garçons qui tiraient les charrettes. Il n'y a plus de collecte des déchets. Les centres de tri ont été fermés. Donc c'est un peu dévié. C'est pour dire combien les problèmes de gouvernance, d'honnêteté sont importants aussi dans tous les processus intelligents qu'on essaie de mettre sur place. Donc ça c'était pour répondre à votre question. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Et bien souvent, qui était diversifié. C'est-à-dire qu'il faisait à la fois de la culture, de la polyculture et de l'élevage. Il avait des bêtes, il avait poulaillers, etc. C'était le modèle agricole français, disons jusqu'aux années 1950. Tout ça se complétait très bien. Les cultures, sur des champs qui n'étaient pas gigantesques, qui ne faisaient pas 10 hectares à chaque fois, elles variaient d'une année sur l'autre. Il y avait ce qu'on appelle des assolements. Certaines cultures enrichissant la terre d'une certaine manière, d'autres cultures l'appauvrissant sur le même composant, par exemple l'azote. Donc ça se succédait. Et les vaches, le bétail, donnaient de l'engrais. Et les champs, le blé, donnaient de la paille, qui faisait la litière des animaux, des chevaux ou des vaches. C'est un modèle agricole qui a disparu à peu près totalement. Pas à 100%, mais presque à 100%. Aujourd'hui, vous avez quoi? Moi, je connais bien le département d'Eure-et-Loire qui fait partie de la Beauce. Je pense que la Beauce, ça vous dit quelque chose. C'est ces grandes plaines à blé qui sont en gros au sud de Paris, au sud-ouest de Paris, qui sont le grenier à blé de la France. Je ne vois plus là que des grandes exploitations, encore plus grandes parce qu'il y a eu un remembrement. Un désert absolu. Quand je disais 10 hectares, c'est peut-être 20 ou 30 hectares pour un même champ. Et ces champs sont équipés avec l'argent, avec des subventions qui viennent de notre argent, du contribuable, soit par Paris, soit par Bruxelles, je veux dire par l'Union européenne. Ils sont équipés, par exemple, de systèmes d'irrigation. Vous savez, ces espèces d'immenses portiques qui peuvent faire 300 mètres de long, qui se déplacent automatiquement, qui pompent énormément d'eau dans les nappes phréatiques, au point de les assécher quelquefois. Et ça, ça marche, en gros, pour une seule culture, qui est le maïs. Donc, quand l'agriculteur, il a équipé son champ, généralement avec des subventions, il va faire pendant des années du maïs pour amortir son installation. C'est-à-dire que la rotation des cultures va disparaître. Par ailleurs, cet agriculteur, il n'a plus le temps de faire autre chose que son maïs, ou que sa betterave, ou que son blé, ou maintenant son colza pour faire des agrocarburants de très mauvais rendement. Il ne s'encombre pas d'avoir des vaches ou des poules. Il n'y a plus de fumier, il n'y a plus d'engrais organique. Donc, comment il fait pour augmenter sa productivité, puisque c'est une agriculture intensive, uniforme, productiviste? Il achète, bien entendu, ça correspond à la question de tout à l'heure, il achète des engrais chimiques, des nitrates, qui sont aussi des dérivés plus ou moins du pétrole, comme l'est pour l'essentiel l'industrie chimique, qui vont booster la production de maïs et, si je puis dire, débooster, c'est-à-dire appauvrir le sol. Parce qu'ils vont, je l'ai évoqué d'un mot tout à l'heure, plusieurs années de suite, les mêmes engrais chimiques, ça tue la biodiversité et ça fait un sol mort. C'est plus que de la pollution du sol, c'est la mort du sol. Ce n'est plus que des grains de matière minérale sans vie qui servent de support. Quand on parle d'agriculture hors sol, comme par exemple des élevages dans des bâtiments, qui sont des choses monstrueuses, mais qui sont malheureusement largement pratiquées, avec quoi on produit la plupart des volailles que vous achetez dans les magasins. Eh bien, c'est la même chose avec les champs. Ils vont être morts. Et ce ne sera plus qu'un support pour mettre plus d'engrais chimiques chaque année. Et éventuellement plus de pesticides s'il y a des bestioles. Parce que malgré tout, la végétation qui pousse, ça peut attirer les bestioles. Donc c'est un cercle vicieux. Et on est parti là-dedans, en s'imaginant que c'était la seule manière d'avoir des rendements. C'est donc le deuxième volet de l'histoire. Autrefois, une agriculture équilibrée, aujourd'hui, une agriculture intensive qui a quasiment, qui est la quasi-totalité de l'agriculture en France. Et dans d'autres régions où ce type de culture n'est pas possible, notamment des régions, des vallées de montagne, l'agriculture est en train de reculer. Il y a de la petite agriculture, des petits champs de maïs ou de tabac par-ci, par-là, mais la vraie agriculture productive, elle est sur ce modèle dont la France a été un des champions avec les États-Unis. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait lieu d'en être fier. Donc voilà des éléments de pollution qui débouchent sur plus que de la pollution, la mort des sols, et voilà des éléments de pollution qui débouchent sur la pollution des nappes d'eau souterraines. C'est comme ça qu'on peut regarder le problème de la pollution des sols ruraux dans des pays comme les nôtres. Vous avez d'autres formes de pollution qui ne sont pas toujours dues à l'homme. Il y a, enfin, quelquefois elles sont dues à l'homme. Une manière dramatique de détruire les sols, c'est la déforestation, qui se pratique beaucoup. Couper les forêts à blanc, ça se pratique beaucoup, pas en France, mais dans énormément de pays. Soit simplement pour récupérer le bois, et on ne le fait pas de manière intelligente, soit, je veux dire que on peut exploiter une forêt de manière intelligente en prenant certains sujets, en laissant les autres. Hein, c'est ce qui se fait dans les Landes ici, où les forêts sont exploitées, mais sont bien exploitées. Soit pour exporter le bois, c'est le cas de beaucoup de forêts équatoriales, notamment en Afrique ou en Asie du Sud-Est, genre Malaisie ou Indonésie. Soit simplement, pour une raison bien simple, c'est que les gens ont besoin de bois pour faire du feu. Et un spectacle très, très, très courant en Afrique, c'est souvent les femmes qui le font, c'est même presque uniquement les femmes qui font des kilomètres pour revenir avec un paquet de bois sur la tête qui correspond en amont de la chaîne à un morceau de forêt qui a été coupé. Et vous savez que la disparition de la forêt, ça veut dire l'érosion du sol. Le sol fout le camp. Je vais quand même, puisqu'on a apporté le paperboard, et je remercie ceux qui l'ont fait, vous faire un petit croquis. Ça représente une île des Caraïbes. À gauche, c'est Haïti. À droite, c'est Saint-Domingue. Saint-Domingue n'est pas un modèle d'institution, mais il y a quand même une administration, la forêt est conservée. Haïti, c'est un pays dramatique où l'État ne marche absolument pas, c'est l'anarchie. La forêt disparaît. Déforestation dramatique. Il y a eu ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours, vous avez vu ça à la télévision, des cyclones dans ces régions, comme il y en a de plus en plus avec le dérèglement du climat. Ici, il n'y a pas eu de morts. Ici, il y a eu des centaines de morts parce que l'eau qui ruisselle sur les collines, les mornes, comme on dit là-bas, l'eau qui ruisselle, elle dégringole en emportant les sols, en faisant des torrents de boue, elle ravage les villes et ça crée des destructions catastrophiques. C'est une manière de pollution des sols à laquelle on ne pense pas. Couper les forêts, c'est épouvantable. À la conférence de Rio, qui est la grande conférence qui a lancé le développement durable, je ne sais pas si vous étiez tous nés à ce moment-là, c'était en 1992, mais vous avez entendu parler de la conférence de Rio, peut-être, si vous vous intéressez aux questions d'environnement. Le président de la République de Madagascar a rencontré un Américain qui était un astronaute. Et l'astronaute a été vers le président de la République de Madagascar, M. Ratsirak, qui heureusement n'est plus au pouvoir, parce que ce n'était pas un homme très recommandable. Et l'astronaute lui a dit « Ah, Monsieur le Président, je connais votre île. » Ah, alors le président de Madagascar était extrêmement fier. Donc, mon pays est important. Et il dit « Oui, je connais malheureusement votre île. » Pourquoi malheureusement ? Parce que quand je suis dans le ciel là-haut, je vois que votre île s'en va dans la mer. Et que tout autour de Madagascar, il y a le sol fertile qui fout le camp dans la mer et qui n'est pas récupérable. Pourquoi ? Parce que Madagascar est un pays où depuis, je ne suis pas un colonisateur, mais on va dire les choses quand même comme elles sont, depuis la fin de la colonisation, les gens ont fait n'importe quoi et ont coupé les forêts. Alors, ce n'est pas toujours pour de mauvaises raisons, mais il y a des alternatives, on peut le faire bien. Et donc, il n'y a plus de sol agricole dans certaines régions. Moi, je connais le sud-est de Madagascar, où là aussi mon ONG travaille. On n'a plus de sol fertile, il est parti dans la mer, parce que sur les collines, on a coupé le bois. Voilà un aspect de... Une autre façon de faire mourir les sols, c'est de les faire disparaître. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur les... Alors, il y a les pollutions industrielles. Vous avez entendu parler, vous vous rappelez peut-être l'histoire de Metal Europe, qui est cette société industrielle qui avait mis la clé sous la porte parce qu'elle n'arrivait plus à équilibrer ses comptes et qui a laissé derrière elle des sols dramatiquement pollués. Ça se passe quelque part en Picardie ou dans le nord de la France. Qu'est-ce qu'on fait pour ces sites qu'on appelle orphelins, qui ne sont pas utilisables parce que, d'une part, il faudrait arrêter ça tout de suite, ils continuent étant imprégnés de matières nocives, de polluer les nappes en dessous. Et d'autre part, on ne peut pas construire dessus parce qu'on ne peut pas se promener dessus tellement ils sont malsains. Donc il y a maintenant des législations qui rendent le pollueur responsable, mais c'est un problème qui demeure entier. Vous avez entendu parler du principe pollueur-payeur. Celui qui pollue doit payer. En gros, il y a des lois et la réglementation est en train d'avancer dans ce sens pour qu'ils permettent à des tribunaux, s'ils sont saisis par les voisins, de poursuivre l'industriel qui a pollué et de le faire payer. C'est une autre forme de pollution. Bon, moi je suis un avocat pour parler de solutions et pas seulement de situations tristes. Je suis un véritable avocat de l'agriculture biologique qui peut avoir des rendements aussi intéressants que le reste et qui ne pollue pas et ne tue pas les sols. Dans nos petites exploitations qu'avec mon ONG nous essayons de développer à travers le monde, on en a fait maintenant 23 000 en Afrique et en Asie, on essaie d'apprendre aux gens de l'agroécologie. Alors, ce n'est pas très facile, parce qu'ils ont appris que chez le marchand de la ville, il y a des engrais, et des engrais chimiques, je parle, évidemment. Et ils ont toujours envie, pour produire un peu plus, de balancer n'importe quel engrais chimique. On leur a donné une formation, mais ils dérapent souvent. Mais il y a des gens qui vous disent, j'ai vu ça il y a quelques mois au début de cette année au Cambodge, qui vous disent, moi j'ai arrêté les engrais chimiques, pas tellement parce que vous m'avez dit quand on a eu la formation de ne pas les utiliser, mais parce que je vois qu'au bout de quelques années, ça détruit mon sol et que mon rendement diminue. Et j'ai acheté deux vaches et j'ai maintenant mon engrais organique et je fais mon compost parce qu'on leur a aussi appris à faire du compost. Donc l'agriculture biologique avec du compost et avec des méthodes culturales légères qui ne détruisent pas les sols, c'est quand même la bonne solution. Et je vous recommande, même si aujourd'hui c'est encore un peu plus cher, ça se banalisera, je vous recommande d'être attentif à l'origine des produits que vous mangez. Je dirais aussi qu'il faut... Il faut interdire, ça répond à la question qui a été posée tout à l'heure, est-ce qu'on peut interdire? Oui, il faut qu'il y ait des interdictions et des amendes pour ceux qui utilisent des produits dangereux. C'est toute une convergence d'actions pour la sauvegarde des sols. Le sol, c'est ce qu'il y a de plus important sur Terre. Ça a l'air d'être un jeu de mots parce que le sol, c'est la Terre. Rien n'est plus important que le sol. C'est... quand les sols sont fertiles, que se développent les civilisations. Pensez à la vallée du Nil, très fertile, et à la civilisation très ancienne de l'Égypte. Pensez aux vallées chinoises et à la civilisation chinoise. quand les civilisations méditerranéennes avaient le courage de faire des terrasses, ce qui nécessite beaucoup de peine de la part des hommes, et de cultiver de la vigne ou du blé en terrasse, eh bien, elles vivaient en autosubsistance et elles vivaient bien avec ce qu'apprend l'historien Fernand Braudel, les trois produits, le blé, l'olivier qui donne l'huile et la vigne. Aujourd'hui, on est sorti de choses raisonnables, il faut y retourner. On va essayer de le faire en répondant à vos questions.